franceinter.fr.
La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Il arrive que des faits divers fassent la une des journaux. Rien de tel ce matin en France, mais c'est le cas au Brésil. Toute la presse brésilienne fait état du viol collectif d'une adolescente à Rio. C'était le week-end dernier. La jeune fille a été violée dans une des favelas de la ville par une trentaine d'hommes qui ont filmé la scène et ont ensuite posté la vidéo sur Internet. Une sordide affaire qui a provoqué l'indignation générale et même un scandale national. Dès hier, des manifestants se sont réunis devant l'Assemblée de la capitale afin de crier leur colère contre la culture du viol au Brésil. D'autres rassemblements sont prévus aujourd'hui à Sao Paulo et le président, par intérim, s'est même fendu d'un tweet pour dénoncer un crime barbare au Brésil. Selon les statistiques de la police, on compte une agression sexuelle toutes les 11 minutes. Et le nombre de viols pourrait dépasser les 500 000 par an.
Il arrive aussi que des actualités people fassent la une des journaux.
Rien de tel ce matin en France, mais c'est le cas aux États-Unis. Toute la presse américaine fait état du divorce annoncé entre Johnny Depp et sa jeune épouse Amber Heard, des unions qui vient de prendre un tour dramatique car l'actrice accuse l'acteur de violence conjugale en fin de semaine dernière. Il l'aurait frappé violemment au visage avec son iPhone. Et les photos montrent en effet des hématomes. Selon le témoignage d'Amber Heard, son futur ex-mari lui aurait du reste proposé de l'argent en échange de son silence. Mais elle a préféré ne pas taire l'incident et demander le divorce le lundi suivant, lundi dernier, disant craindre aujourd'hui pour sa sécurité. Elle a obtenu une ordonnance interdisant désormais à Johnny Depp de l'approcher à moins de 100 mètres.
Il arrive aussi que des actualités animalières fassent la une des journaux.
Rien de tel ce matin en France. Mais c'est le cas au Japon. Toute la presse japonaise fait état de la disparition du plus vieil éléphant de l'Empire du Soleil Levant. Une femme, une femelle éléphant, qui s'appelait Anako et qui s'est éteinte à l'âge de 69 ans cette semaine dans l'un des zoos de Tokyo. Dès l'annonce du décès, de très nombreux admirateurs de l'animal se sont rassemblés devant son enclos afin d'y déposer des fleurs et des mots de condoléances, car Anako était une star au Japon. Un animal chéri par des générations, figurant même dans une série télé et dans des livres pour enfants. Une star et un symbole, celui de l'amitié entre les Japonais et leurs voisins thaïlandais, offerte au Japon par la Thaïlande en 1949. L'éléphant Anako était le cadeau scellant la bonne entente des deux pays après la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs aussi d'amitié qu'a parlé Barack Obama hier en se rendant à Hiroshima.
La ville japonaise sur laquelle l'armée américaine lança la toute première bombe atomique.
Un déplacement historique et un discours sur lequel reviennent ce matin de nombreux éditorialistes, précisant que Barack Obama n'a bien sûr formulé aucune excuse. Les États-Unis font rarement dans la repentance. Pas le genre de la première puissance mondiale, relève Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. À Hiroshima, il fallait alerter sans paraître sur la défensive, alerter sur les risques des armes nucléaires et effacer l'image nuisible d'un pays qui longtemps s'est réjoui du chaos infligé à l'ennemi. Vers la fin d'un mandat, il ne reste plus guère aux hommes élus que les symboles pour laisser leurs traces, constate pour sa part Jean-Marc Chevauché dans le courrier Picard, en allant plaider pour la dénucléarisation du Japon et la dénucléarisation du monde. Au Japon, Barack Obama rend service à la paix, certes, mais que ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Même point de vue dans Le Monde, qui rappelle qu'en 2009, après sa première élection, le nouveau président jurait de travailler à un monde sans armes nucléaires. Et du coup, le quotidien évoque une mission accomplie à moitié. Et demain, c'est d'une autre guerre qu'il sera question, cette fois en France, l'autre grande guerre, la première, avec la commémoration des 100 ans de la terrible bataille de Verdun.
Verdun qui est devenu le symbole de la réconciliation franco-allemande.
Un symbole initié par le régime nazi. Comme s'en souvient dans le Figaro Jacques de Saint-Victor. C'était en 1936, les 12 et 13 juillet, une première commémoration qui se voulait alors pacifique, 20 ans après les combats du côté tricolore. On veut alors tellement préserver la paix que toutes les renonciations paraissent à l'époque souhaitables. Plus de 30 000 représentants des soldats, des nations ayant pris part à la Grande Guerre se retrouvent donc à Verdun, ce 12 et ce 13 juillet 1936, afin de célébrer l'événement. Célébration au cours de laquelle un orateur de la délégation nazie déclara aux Français « Tous les Allemands, et d'abord le Führer, croient fermement à la possibilité que les deux peuples puissent désormais vivre en voisins Pacifique. On sait ce qu'il advint quelques années plus tard. Il faudra attendre 30 ans et le retour au pouvoir du général de Gaulle pour que la France célèbre de nouveau Verdun, mais cette fois sans l'Allemagne. L'édito du journal est d'ailleurs également consacré au sujet, édito dans lequel Étienne de Montetit se désole du climat dans lequel intervient cette journée de célébration. Il y a, dit-il, quelques tristesses à observer que la commémoration de Verdun tombe au milieu d'une actualité pour le moins chaotique. Manifestations, violences, grèves, blocage des transports. Il y a là aussi un symbole, mais un symbole navrant, selon lui, symbole composé d'égoïsme, d'inconscience et de corporatisme, comportement d'autant plus choquant que demain, le président ne manquera pas de saluer les vertus d'abnégation, de responsabilité et de solidarité qui firent la force invincible de la France. Égoïsme, inconscience, corporatisme, Le Figaro est un journal d'opinion. Dans la presse régionale, on préfère en rester aux faits. On n'en a pas fini avec les grèves, note ainsi l'Union. La fronde contre la loi travail ne devrait pas faiblir, et ce, même si les moyens d'action restent flous. Après une semaine agitée, la pression ne retombe pas, constate pour sa part l'Ardennais, tandis que le courrier de l'Ouest se demande si l'on s'achemine vers une nouvelle semaine de galère. En tout cas, précise le journal, le bras de fer entre le gouvernement et les opposants à la loi travail est bien parti pour continuer en juin. On est entré dans une guerre d'usure, confirme Jean-Michel Bougreau dans La République des Pyrénées. Une guerre de position frontale qu'au plus haut niveau de l'État, on assume aujourd'hui clairement.
Et c'est ce que confirme l'interview donnée par le Premier ministre dans Le Parisien.
J'irai jusqu'au bout, c'est le titre à la une, jusqu'au bout, pour faire adopter la loi travail et son article 2. Ma porte est toujours ouverte, je suis toujours prêt à la discussion, mais quand un texte a été discuté, qu'il a suscité des compromis avec les partenaires sociaux, qu'il a été adopté à l'Assemblée, je considère que ma responsabilité, c'est donc d'aller jusqu'au bout, Emmanuel Valls, d'assurer qu'il n'a pas de problème avec la CGT, ni même avec son dirigeant Philippe Martinez, mais estime-t-il, la CGT, qui demande le retrait du texte, a fait le choix d'une stratégie très dure et le choix de l'impasse. Dans cet entretien, le chef du gouvernement rappelle par ailleurs son ministre Emmanuel Macron à son devoir de loyauté. Il a un talent réel, explique Manuel Valls. Beaucoup voient en lui une forme de régénérescence de la vie publique, mais quand on est ministre, il faut être uniquement à cette tâche. Et d'évoquer le football, à 2 semaines de l'Euro, Manuel Valls aime beaucoup le football et dit-il, dans une équipe de foot, il faut des talents, de très bons joueurs, à tous les postes, mais il y a surtout un collectif, une capitaine, un capitaine, une stratégie. On ne prend d'ailleurs pas toujours les meilleurs à tous les postes, explique-t-il. Regardez ce que fait Didier Deschamps, il prend ceux qui seront les meilleurs collectivement. La loyauté, c'est la cohérence et la cohésion d'une équipe, c'est comme ça que je conçois ma tâche, dit-il. Dès lors, au sujet de la volonté de son ministre de l'économie d'envoyer ses partisans faire du porte-à-porte chez les Français, le chef du gouvernement ironise. C'est bien de faire du porte-à-porte, que tout le monde fasse du porte-à-porte. Mais dans les heures où on n'est pas ministre, son opération de porte-à-porte, c'est aujourd'hui même que la lance Emmanuel Macron.
Quoi d'autre à retenir dans la presse ce matin, Frédéric ?
Affaire tapis Sarkozy snob les juges, c'est-à-dire dans Mediapart, les juges en charge de l'enquête sur Bernard Tapie ont convoqué Nicolas Sarkozy le 13 avril dernier. Il ne s'est pas rendu à la convocation. Lire le billet de Laurent Binet dans l'équipe. Le tennis est un langage, écrit-il. C'est délicieux. Il y a quelque chose de l'ordre de la conversation dans un échange de tennis, quand on frappe des coups droits, quand on répond avec un revers, enfin dans Libération, lire l'interview qu'accorde Vincent Dedienne qui explique ses choix musicaux, ce qu'il aime écouter, notre ami Vincent Dedienne. Le groupe dont vous auriez aimé faire partie, lui demande le journal. Réponse de Vincent Dedienne, la Compagnie Créole, parce qu'ils ont quand même l'air très très heureux. Je ne pensais pas qu'un jour, grâce à Vincent Dedienne, nous pourrions commémorer les grands succès de la Comédie Créole.
On ne les écoute pas, non. C'était la revue
Compagnie
de presse.
Créole. La Compagnie Créole. C'était... Je voulais chanter, Patricia.
Non. C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.